imaginez-vous que vous soyez à 1000 km de Lima. Que le temps s'est éclairci au point d'être bleu comme ce ciel qui est bleu, quelque chose comme 300 jours par année. On croit rêver. Hein. Il est vrai qu'après avoir traversé des zones rocailleuses, je vois du mauve, je vois du rouge, un peu de jaune, quelques taches blanches, une vallée toute verte. Et puis, subitement, vous arrivez dans cette immense cuvette et en face de vous, il y a un volcan. Vous avez déjà admiré sur les gravures japonaises le Fujiyama. Eh bien, le Misti, c'est un peu cela. Vous êtes au Pérou, on arrive à quelque chose comme 2300 mètres d'altitude. Et ce Misti, ce volcan, c'est quelque chose d'un peu mythique parce que lorsqu'on voit la forme d'un volcan avec une précision pareille, bon, il fait quand même 5800 mètres d'altitude. Il a une forme régulière et puis il s'impose comme s'il était assis sur quelque chose, comme si cette roche qui le fondait, cette terre, ce basalte finalement qui a coulé petit à petit, avait formé une pyramide d'une précision un peu diabolique. Près de lui, il y a d'autres sommets, d'autres volcans. Vous vous dites que vous êtes dans une vallée qui sort de l'ordinaire parce que ce soleil, ce printemps toute l'année, ce climat fait que vous avez envie de vous installer déjà à l'époque précolombienne à Arequipa. Arequipa, ça chante un peu, ça sent la colonie, ça sent, tiens, pourquoi pas, la route de l'argent lorsque vous êtes du côté de Potosi, du côté de la Bolivie, et que vous désirez chercher les terres basses et revenir sur Lima. Potosi, c'est naturellement encore plus loin, encore plus haut, à 4000 mètres, il y a le lac Titicaca, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais Arequipa, c'est ce souffle que vous avez envie de vivre comme cela, une façon de respirer qui va vous faire rester quelques jours. Arriver dans cette ville, c'est d'abord imaginer une place. Elle penche un peu, elle descend doucement, et le soleil vient l'éclairer de façon curieuse, et puis il y a cette cathédrale avec une forme de décor de théâtre, parce que le Misti, vous l'avez déplacé entre les deux tours. Les deux tours sont très écartées, il y a comme une façade trop longue, il y a comme une rangée de colonnes avec des arcades sur trois côtés, et au milieu, quelques bancs, des dizaines de petits arbres, un peu d'ambiance qui fait que vous n'êtes pas vraiment indien, non, vous êtes colonial, vous êtes installé là depuis ces années 1500, l'apogée arrivera peut-être au 17e, au 18e siècle, et puis vous tournez votre regard à l'opposé de la cathédrale et vous voyez tout à coup une espèce de pièce montée, quelque chose de sculpté de façon un peu étrange, et vous imaginez ces premiers jésuites qui sont arrivés à la fin du 16e siècle et qui ont décidé de suivre cette voie de l'argent, de poser comme des sceaux leur propre empreinte, leur propre façon de voir la vie, la religion, la philosophie, et qui ont décidé de partir de Lima et de se dire que de l'autre côté des Andes, il y avait peut-être le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil, le Rio de la Plata, des noms qui font chanter et qui nous font comprendre que ces premières missions jésuites vont s'installer partout où il y a de l'argent, où il y a des valeurs, où il y a une façon de comprendre et d'entreprendre la colonie qui est nouvelle. Arequipa, c'est peut-être la plus belle ville du Pérou, c'est en tout cas celle qui donne à ce pays une âme espagnole, une âme conservatrice, avec l'assurance que l'on a fondée depuis 4 siècles, quelque chose qui est solide, qui est durable. Laissez-vous aller, pénétrer devant glisser dans cet atrium, dans ce premier ensemble colonial, et puis essayer de conserver cette vision baroque en se disant que chaque jésuite a demandé à un indien de prendre un marteau, de prendre une pierre qu'on appelle le sillar d'Arequipa, une pierre qui a une couleur un peu jaunâtre, un peu blanchâtre. On sait qu'elle vient des carrières qui sont à quelques kilomètres, mais on a l'impression que tout à coup toute la ville va se couvrir de cette même façon de travailler, de sculpter. Alors vous avez un porche, vous avez une tour, elle est un peu basse, c'est vrai. Tiens, je viens de sentir un petit rien sur l'échelle de Richter. Oh, ça fait partie des 50 ou des 100 tremblements de terre de l'année. On a dû petit à petit, au cours des décennies, au cours des siècles, rabaisser la hauteur des bâtiments. Cette tour ne tiendrait pas si elle était faite comme en Espagne. Non, elle a quelque chose de raccourci, de rapetissé, de plus solide qu'à l'ordinaire. Elle dépasse à peine ce retable, parce que c'est bien cela. On a une façade qui est faite comme si vous étiez à l'intérieur de l'église, comme si vous étiez déjà devant un hôtel. sculpturale. Il y a une date là, c'est 1600 et des poussières. Vous regardez la sculpture, ça commence par le bas. Il y a comme des racines, il y a comme une plante qui commence à pousser. Vous voyez tout à coup une gueule de... Est-ce que c'est un lion? Est-ce que c'est un tigre? Est-ce que c'est un jaguar? En tout cas, c'est un félin qui pourrait sortir de la jungle. Et puis, il y a une plante qui pourrait ressembler à une orchidée. Ou tiens, une grenade, un petit rien de vigne. Des choses qui ne sont pas forcément du Pérou, mais qui font penser que l'Indien a compris que la symbolique chrétienne pouvait être interprétée un peu comme la sienne, avoir quelque chose d'assez similaire. Et finalement, il va recouvrir petit à petit toute la surface de l'édifice. Oh, ça n'est pas très profond, c'est une sculpture qui fait peut-être 5 à 6 cm de fond. Mais vous imaginez ce marteau qui gratte dans la pierre, exactement comme si vous preniez un canif et que vous graviez petit à petit chaque morceau de cette sculpture, chacun de ces symboles qui vont petit à petit se transformer en saints, se transformer en sirènes. Il y aura des chimères, des petits monstres curieux, des angelots qui sourient à peine. Tout cela devient à la fois chrétien, mais en même temps à garder ce côté indigène. La façade s'est couverte, il y a un IHS parce qu'on est jésuite, il y a un petit symbole de Marie en raccourci, la date que j'évoquais tout à l'heure. Je la vois, je ne sais plus si c'est 1609 ou si... Non, c'est peut-être 1690 en fait. On est plutôt à la fin du XVIIe siècle. Et ce qui était curieux, c'est que tout ce côté un peu gauche, un peu artisanal, un peu indigène, fait qu'il y a... On a envie de sourire. On a envie de rentrer en contact avec ce monde-là et puis on se laisse aller à l'intérieur. Et là, tout à coup, il y a de l'or. De l'or partout, de l'or parce que on était riche, on voulait montrer ce côté baroque, ce côté contre-réforme. Le jésuite n'était pas très protestant dans sa façon de voir les choses, et a fortiori dans un pays où les Indiens aimaient cette espèce d'horreur du vide. Et quand vous êtes au fond, vous avez un petit chanoine qui vous invite, qui vous demande « Est-ce que vous connaissez la chapelle de Saint-Ignace ?» Saint-Ignace. Ah oui, c'est Saint-Ignace de Loyola, c'est donc... la chapelle qui correspond à ce saint des jésuites, enfin à ce premier jésuite qui est apparu, je crois que c'était à Pamplune en 1521, et qui tout à coup s'est dit que son ordre allait cheminer le monde, allait parcourir les continents les plus inconnus. Et là, il ne vous tient pas par la main, mais il a une façon de vous faire pénétrer en vous disant « Attention, vous êtes à Arequipa, vous êtes à 2300 mètres d'altitude, mais vous allez découvrir, pourquoi pas, la Chine, le Japon, l'Espagne, l'Amazone, ce même Paraguay, cet Uruguay, ce Brésil que j'évoquais tout à l'heure, les tropiques et cette jungle. Et vous pénétrez à l'intérieur d'une chapelle qui ressemble à une étrange ruche qui monte très haut vers le ciel. Et là, au premier abord, on vous a laissé tout éteint. Vous sentez simplement une atmosphère étrange. Un silence un peu pesant, quelques saints commencent à se profiler aux quatre angles, vous voyez les tétramorphes, enfin Saint Matthieu, tiens voilà, Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc, et puis la lumière se fait petit à petit et vous voyez une coupole qui monte en niveau très doux vers le ciel avec un lanterneau. Vous savez, cette façon de plonger dans le ciel sans aucune lumière, juste un peu d'albâtre, un peu de douceur comme ça jaunâtre, et les ors commencent à se dessiner, mais en même temps vous avez de la peinture. Une peinture où l'on utilise l'ocre, un jaune, vous savez ce jaune qui fait penser que les terres d'altitude, le désert, je ne sais pas, il y aurait du rouge, comme on dirait du cinabre. On imagine ces couleurs qui permettent de créer ces tons un peu, non pas seulement chaleureux, mais presque religieux, enfin un rouge profond. Et puis il y a du bleu, un bleu qui va tourner par certains détails jusqu'au turquoise le plus profond. Vous voyez un oiseau, vous voyez un aigle, vous voyez un ange, tout cela commence à se mélanger. C'est une espèce de tapisserie de couleurs, une fresque qui remplit l'espace. Il n'y a pas un centimètre carré à l'intérieur de la chapelle de Saint-Ignace qui ne fasse penser que tout grouille, tout vit. Dieu est-il présent dans chaque chose, là-bas dans la jungle, là-bas au bout de la Chine? Il a fait le tour du monde, un jésuite sait que cela grouille, que cela vit. Dieu est présent, pourquoi parler de religion? Mais parce que tout à coup on se dit qu'il y a du sacré, et que l'Indien a compris que ces deux formules, la sienne, celle du jésuite, pouvait se rejoindre dans une explosion de couleurs, d'arabesques, de lignes, de spirales, de fleurs, de végétation, des animaux étranges. J'ai parlé chimère, il y a quelque chose de chimérique. Rêvez, un ange passe tout au sommet, une colombe blanche vient de s'envoler au sommet du lanterneau. sorti de ce monde étrange, de ces couleurs de terre, ces couleurs de vie, ces couleurs qui ont la force de ces bleus, de ces jaunes, de ces rouges que j'évoquais. Saint-Ignace, Arequipa, le Pérou, c'est une occupation étrange. Une ville qui tout à coup s'installe dans cette religiosité, je répète le terme parce que on sent une sorte de chape, on sent quelque chose de très fort. On n'est pas en Espagne, bien sûr, on est là, au bout du monde. J'ai dit qu'on était à 2200 et quelques mètres, que... Ah bah tiens, je viens de contrôler la date en sortant, c'est 1698. C'est vrai que ces années-là sont peut-être les années les plus explosives, les plus incroyables du Pérou, parce que quand on disait... Ah oui, on le disait même chez nous, je ne sais pas, du côté de Lyon, du côté de Genève, quand on rêvait d'un autre monde, on disait « c'est le Pérou ». Eh oui, c'est le Pérou. Parce qu'en 1532, on avait eu le trésor d'Atahualpa. Parce qu'en 1698, au moment où l'on décore cette incroyable église de la Compagnie de Jésus, eh bien, on est à l'apogée. On vient de trouver des montagnes d'argent, là, à l'autre bout du monde. Et l'explosion de ces valeurs, l'explosion de ce chemin qui passera par les caravelles et qui ramènera à cette Espagne qui est devenue mondiale, qui est devenue quelque chose qui va couler sur toute l'Europe, l'Italie, on profitera un peu, mais c'est surtout l'Angleterre, la Hollande, un peu la France. Parce qu'en Espagne, on ne sait plus rien faire à l'époque. On a tellement d'argent. On achète quelques draps en Flandre, on achète quelques meubles ailleurs, on s'imagine que tout peut venir, effectivement, sans rien produire, sans rien faire. On tend la main du côté du Pérou, on tend la main du côté du Mexique, et l'on reçoit de toutes ces royautés, de tous ces royaumes d'Europe, parce qu'on est devenu involontairement les plus riches. Or, Arequipa, on a cette même friction des deux mondes, on a cette même impression d'être pris dans des gens qui ont vécu comme créoles, qui se sont installés comme des petits roitelets, comme des petits seigneurs dans cette vallée fantastique. Vous plantez un oignon, il pousse, vous plantez un peu de maïs, il pousse, la pomme de terre, je n'en parle pas, il y a sûrement 1500 variétés dans la vallée. Vous êtes en pleine terre de richesse, 300 jours de beau par année, d'accord, mais de l'eau qui coule, regardez, le Misti est en train de fondre doucement, il y a de la neige, tout l'année, vous aurez de l'eau, l'irrigation fonctionne partout, des terrasses impeccables. Ben tiens, on ira peut-être se promener dans les endroits les plus fous de la région d'Arequipa tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on reste au cœur de la ville. Vous venez de sortir de cette église de la Compagnie, et puis vous montez un tout petit bout la rue, et puis vous voyez un premier porche, et vous dites, tiens, il doit y avoir un couvent à côté de cette église des Jésuites. Et là, c'est un autre éblouissement, parce que la sculpture que j'évoquais dans ce sillard, dans cette pierre, oh, c'est un calcaire très doux, comme ça, quelque chose qui ressemble à notre molasse en plus dur, mais avec ce ton brillant sous le soleil, eh bien là, ce sont encore d'autres motifs floraux. Chaque colonne est faite au carré, avec des gravures de chaque côté, avec des sculptures précises. Et puis, il y a ce décor de surface, il y a ce premier étage, et puis vous apercevez la coupole. Bah tiens, maintenant, vous voyez comment était faite la chapelle de Saint-Ignace. Elle déborde comme cela, toute seule, avec son petit lanterneau, comme si c'était un gros melon avec un petit éton sur le sommet. Et puis, il y a sans arrêt ce mystique qui vous obsède un peu à l'horizon. Vous flânez dans les différentes rues de la ville et tout à coup, vous arrivez devant quelque chose d'énorme. Quand je dis énorme, je ne sais pas si vous connaissez Machu Picchu, mais imaginez-vous une ville sacrée, espagnole, un couvent dédié aux Carmélites, puisqu'on est à Santa Catalina. Santa Catalina, c'est le rêve américain religieux à l'état pur. Comment vous le décrire ? Un carré qui prend tout un quartier, avec une seule entrée, une flèche de nouveau trop basse, d'église qui dépasse à quelque part, et puis des murs qui l'entourent de façon parfaite, des murs qui doivent atteindre, je ne sais pas, 8 ou 10 mètres de hauteur, mais qui sont nus, parfaitement nus, avec juste un trottoir pour le longer. Mais ce trottoir n'en finit plus, ce mur n'en finit plus, vous vous dites, ça n'est pas possible, ça ne peut pas être un seul immeuble. Et quand vous pénétrez à l'intérieur, vous vous dites, non, ça n'est pas un immeuble, c'est une ville dans la ville. Et ça devient assez incroyable parce qu'aux alentours de 1580, on a décidé d'installer ces femmes riches, ces femmes qui avaient des dots. Imaginez-vous, on devait, pour rentrer dans ce couvent, offrir quelque chose comme 1000 pesos d'or. 1000 pesos d'or, j'ai envie de vous faire un peu saliver. Un peso d'or, ça devait être 4,08 grammes par peso. Vous multipliez par 1000, ça fait déjà un joli poids. Vous arrivez avec votre petit sac de pépites ou d'or, ou vos lingots d'argent, en plus grand nombre bien sûr. Vous êtes une femme, vous êtes peut-être peut-être l'avant-dernière ou la dernière de la famille. Vous avez l'habitude de vivre comme cette fin de 16e, en ce début du 17e, dans l'opulence. Dans une famille, il y avait un homme qui devait devenir, je sais pas, il aurait pu être prêtre ou chanoine, mais il y aura une femme qui assurément devra choisir, non pas un mari comme tous les maris, mais ce mari-là, le Christ lui-même, épousé vraiment de façon mystique, mythique, cet être et s'accommoder de lui pour la vie. Et simplement par cette dot, pénétrer à l'intérieur d'un couvent où, je ne sais pas, sa simple dot correspondait peut-être à une des toutes belles maisons que vous avez croisées dans les rues d'Arequipa. Ces maisons riches, ces maisons qui ont ce côté seigneurial, eh bien, votre dot correspondait pratiquement à un petit palais. Et là, à l'intérieur, on allait vous permettre, en tant que femme, en tant que nonne, parce que petit à petit vous le seriez, je ne sais pas, avoir un appartement, avoir une cellule extrêmement stricte, avec un simple lit, avec un crucifix éventuel, un petit rien pour le décor religieux, mais une sobriété fantastique, des pièces assez hautes. Certaines sont faites, un peu comme la chapelle de tout à l'heure. Contre les tremblements de terre, on avait monté des voûtes vers le ciel, et souvent les éclairages se font par des lanterneaux qui sont carrément au sommet de cette voûte, c'est-à-dire quelques petites lumières comme ça qui apparaissent, qui donnent un ton un peu blanchâtre, un peu grisâtre à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et puis vous vous dites, mais c'est pas possible, ça n'est pas une simple cellule. À côté, il y a un appartement complet, il y a l'endroit pour les servantes, il y a une cuisine, il y a un service complet. Tout à coup, cette simple cellule devient une véritable maison, un véritable appartement. Tiens, je suis dans la rue de Tolède. Tiens, je viens de passer la rue de Cordoue. J'arrive effectivement à me trouver dans un patio avec une énorme fontaine qui coule. Je vois toujours le Misti au fond. Vous pouvez passer dans les différents endroits du couvent. Une partie est en bleu pour les novices. Ensuite, vous passez au rouge. Il peut y avoir du blanc. C'est une véritable ville dans la ville. Vous allez vous promener une heure, deux heures dans un couvent. Dans un couvent qui vous ramène... Regardez l'atmosphère, regardez les fleurs, regardez ces hibiscus qui coulent de partout, quelques bougainvillées, vous êtes véritablement en Andalousie, vous avez l'impression d'être à la fois dans ce climat trop net, trop clair, trop frais, trop parfait, trop chaud en même temps. Parce que quand on dit printemps, quand on dit début d'été, vous vous rappelez de ces journées de fin mai comme cela, où vous avez envie de rester dehors jusqu'à 10h du soir. On vous dit, oui, c'est confortable. J'ai dit qu'on était à plus de 2200 mètres, on est au Pérou, le climat paraît complètement aberrant. Non, Arequipa, c'est un véritable rêve. Vous êtes une femme, vous resterez célibataire jusqu'à la fin de vos jours, et pourquoi pas, vous pourrez être un jour, si vous êtes la mère supérieure, être béatifié par un Jean-Paul II qui aurait passé dernièrement dans ce couvent de Santa Catalina. Arequipa, eh bien, c'est une exception. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 31 ou 32 nonnes qui se sont cachées dans un tout petit coin de cette ville fantôme. Quand vous arrivez tout au fond de la dernière rue, que vous apercevez encore à travers... Est-ce que vous avez déjà vu des tableaux de Léonard de Vinci? Vous savez, avec ces arbres, je ne sais pas exactement quel est le nom de cet arbre. C'est de la famille des cyprès, sûrement. Ça ressemble à un pin, mais avec des ramures tellement précises qu'on dirait qu'on les a dessinées, qu'on les a grattées à la plume, tellement elles sont parfaites sur ce ciel bleu, sur cette neige qui nous obsède à l'horizon. Et là, tout à coup, vous découvrez, je ne sais pas, une cinquantaine de jarres qui ont été coupées en deux, qui vous permettent de créer des lavoirs. Vous avez de l'eau partout. Et là, vous devinez une porte qui a été fermée. Elle est close depuis quelques 20 ans ou 25 ans, peut-être 30. Et là, vous comprenez que derrière ces murs, à l'intérieur des murs, il y a encore 30 femmes qui aujourd'hui ont peut-être la possibilité de sortir plus souvent qu'à l'ordinaire. Mais imaginez-vous, en 1600, en 1700, en 1800, vous étiez cloîtrés à vie. Il y a à l'entrée un simple tourniquet. Vous connaissez les tourniquets? Vous avez une toute petite salle avec des barreaux de bois. Vous avez une surveillante à côté de vous qui correspond à un système un peu policier, quelqu'un qui dépend directement de la mère supérieure. Vous êtes novice, vous êtes vous-même en rapport avec votre famille. Ceux de votre famille sont cachés derrière un écran, derrière une sorte de mante de velours qui est placée devant devant cette barrière, devant cette grille de bois. Et puis, si jamais vous vouliez recevoir un bréviaire ou offrir un petit gâteau que vous auriez fait, ce que vous pouvez d'ailleurs vendre aux passants, parce que chacun avait le droit de manger quelques friandises de ce couvent de Santa Catalina, ou d'échanger, je ne sais pas, un savon. Tiens, des savons persil, c'était leur grande spécialité. Des espèces de pains un peu verdâtres, qui ont une odeur un peu végétale, un peu curieuse. Eh bien, il fallait effectivement poser une pièce, peut-être un peu d'or à l'époque, et recevoir dans ce tourniquet sans jamais voir qui que ce soit, sans jamais aucun contact physique. Vous pouviez passer comme cela du monde extérieur au monde intérieur. Être enfermé, certaines de ces femmes ont été enfermées comme cela à partir de l'âge de 10 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à leur dernier souffle. Oh, 80 ans dans le couvent de Santa Catalina, c'était un âge normal. Tiens, il faut que je vous dise, la photomaton était totalement interdite. Les seuls clichés que nous avons, des peintures un peu sévères, elles avaient en général une coiffe, quelques fleurs. C'était un peu comme pour les représenter le jour de leur entrée, le jour de leur mariage avec le Christ. Non, 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 la peinture a été faite là, entre quatre cierges, dans cette étrange salle mortuaire où les nonnes pouvaient être peintes, les yeux clos. Elles étaient mortes depuis hier. Faire 1000 pesos d'or pour faire serment de pauvreté, bien sûr. Le vœu, le silence. Vous vivez une vie entière sans communiquer. Le soleil brille toujours. Il y a des salles curieuses dans ce couvent. Je vous ai dit, c'est une ville. Vous avez le temps, vous pouvez visiter. Il y a les cuisines, par exemple, qui ont été communes à un certain moment. Mais vous avez votre cuisine privée avec vos servantes, comme je l'évoquais. Des cuisines énormes où vous voyez encore non seulement les foyers mais aussi la fumée qui peut s'échapper justement au sommet de ces voûtes géantes. Et lorsque vous sortez, vous découvrez certaines grandes salles. Tiens, on était tout à l'heure dans la salle du De Profundis, on a recréé un peu cette ambiance un peu morbide, un peu mortuaire. Mais juste à côté, vous avez une salle qui a dû servir à la fois de dortoir commun, pour les novices en tout cas, et puis aujourd'hui de salle de concert. Enfin, c'est vraiment l'ampleur d'un couvent. L'argent, même si l'on avait fait vœu de pauvreté, pouvait permettre d'édifier les merveilles. Et cette salle est en forme de croix, enfin une sorte de croix en L, vous savez, avec la partie centrale cassée comme un taux. Et là, elle n'en finit pas. Il y a aujourd'hui des centaines de peintures. Des peintures qui nous font comprendre que l'art du côté d'Arequipa, avec un soupçon d'Inca, avec un soupçon d'Espagnol, eh bien, c'est de l'art de Cusco, c'est de l'art des hauts plateaux. Et il y a des interprétations curieuses. Vous voyez, par exemple, tiens, je me suis attaché à une sainte scène. Vous connaissez la scène. Il y a Judas, bien sûr. Il est toujours imberbe, d'ailleurs, quand il est représenté à la façon indienne. Et puis, il y a naturellement le Christ est devant lui. Sur la table, on s'attend à voir le repas de la Pâque juive, bien sûr. Et ben non, c'est un couille qui se trouve là, au milieu. Attention, ne faut pas faire de confusion. Le couille, c'est ce petit cochon d'Inde, vous savez, qu'on retrouve dans toutes les fermes incas, qu'on retrouve dans toutes les fermes indiennes des hauts plateaux. C'est ce petit cochon d'Inde que vos enfants, que vous-même comme enfant, avez certainement eu une fois dans une petite cage, qui glousse un peu, qui a l'habitude de grignoter sans arrêt, qui est doux, qui est éveillé le jour, qui dort la nuit, à l'inverse du chinchilla ou d'autres animaux qui ne sont pas aussi sympathiques. Non, le cochon d'Inde, on peut l'empoigner, on peut le prendre, on peut le toucher du pied, on peut le repousser, on met juste une petite murette de 15 cm de hauteur dans la hutte et il reste à l'intérieur. Vous en avez 10, vous en avez 50, vous en avez 100. Et vous avez compris qu'à la place de l'agneau, on mettait justement un petit cochon d'Inde parce que c'est le repas préféré des Incas. Donc tout à coup, on voit cette espèce de mélange entre le côté indien et le côté religieux bien strict. Et après avoir visité une bonne vingtaine de ces anciennes cellules, de ces anciens appartements, on ressort et on croit véritablement avoir rêvé. Puis vous êtes happé par quelqu'un qui vous dit « Mais est-ce que vous connaissez peut-être l'endroit le plus magique de la région d'Arequipa ?» Écoutez, oui, je crois déjà avoir entendu parler du canyon de Colca. Colca, c'est un nom qui chante peut-être un peu plus depuis quelques années, parce que tout à l'heure la terre tremblait, mais il y a quelques heures, le volcan d'en face commençait à gronder. Et il y a eu une éruption volcanique assez importante ces dernières années qui a, que vous dire, réchauffé. Non seulement le volcan, mais toute l'atmosphère de la région. Là, vous êtes carrément dans les cordillères les plus incroyables. Tout est minéral, tout est absolument sauvage. Vous êtes monté d'un seul coup à 3000, puis ensuite à 4000, à 4500 mètres d'altitude. Vous avez suivi une piste impossible en sortant d'Arequipa. Vous êtes rentré dans la partie la plus minérale, la plus folle du pays. Et là, vous découvrez ces volcans et vous imaginez ce qui s'est passé il y a quelques années. Ah, vous vous rappelez qu'effectivement, un de ces volcans qui a explosé a réchauffé l'atmosphère, comme je le disais, et petit à petit, le glacier d'en face, sur l'autre sommet, qui lui-même était volcanique, un sommet qui monte pratiquement à 6000 mètres d'altitude, a été non seulement réchauffé, mais il a commencé à fondre. Et cette glace qui a fondu a transformé la surface, et petit à petit, lorsque vous êtes andiniste, on ne dit pas alpiniste, dans le coin, bah, il suffit de faire un peu de varap et de grimper aussi haut que cela, et tout à coup, vous vous trouvez devant quelque chose d'inimaginable. On est à 6500 mètres d'altitude et tout à coup vous tombez sur un caillou. Mais un caillou taillé par la main de l'homme. Un caillou qui a été monté à dos d'homme depuis 2000 ou 3000 mètres d'altitude, qui est peut-être même venu du Cusco, qui a fait quelques centaines de kilomètres et qui permet tout à coup de construire quelque chose de modeste, mais enfin une vraie construction inca. Un petit hôtel, un petit temple, vous savez, avec ces pierres taillées qui ressemblent à des cubes un peu curieux ou même des formes un peu trapézoïdales comme ça qui s'enchassent les unes dans les autres de façon parfaite. On a même l'impression qu'on a dû tailler la pierre sur place pour qu'elle puisse s'ajuster à la suivante. Il y a des tenons à l'intérieur. Et puis tout à coup, par hasard, à cause de la fonte des neiges, à cause de la fonte de cette glace, vous découvrez un bout de tissu. Et au bout de ce tissu, vous trouvez un urku, un véritable tissu précolombien avec des détails très précis. Et puis, vous découvrez pour la première fois à cette altitude, au Pérou, parce qu'on l'a déjà fait au Chili, au sommet du Toro, à presque 7000 mètres d'altitude, une momie. Ou plus exactement, une jeune fille. Je ne vais donner qu'elle comme exemple. Une jeune fille qui pouvait avoir 12 ans. Une jeune femme, une enfant. Je dis jeune femme parce qu'on est femme très très tôt dans les années 1400-1500 de notre ère, lorsqu'on est inca. Eh bien, on vous a certainement choisi il y a déjà 2 ou 3 ans. Vous étiez une vierge, peut-être même du soleil. Votre corps était parfait. Votre beauté était sans limite. Et on vous a simplement demandé de suivre cette caravane. Vous les voyez avec leurs ponchos, avec leurs bonnets de couleur, un peu comme les Indiens d'aujourd'hui. Vous imaginez ces Incas qui montent avec encore quelques alpacas, quelques lamas, parce qu'on peut porter jusqu'à 20 kilos, on s'arrête à 4000, on grimpe encore jusqu'à presque 5000, et on continue, dans la neige, dans la glace. On va jusqu'au sommet de ce sommet, parce que ce sommet, c'est déjà un Apu, c'est un dieu. Un dieu monte vers le ciel, il est au sommet de tout. Ce sont les bornes du monde. L'empire s'est augmenté, il a grandi. On va prendre cette jeune fille, il fait froid, moins 20, moins 30. Elle prend quelques feuilles de coca, on l'endort doucement avec une drogue plus forte. Elle s'assoit, elle prend sa position, elle a sa petite bourse à coca à côté d'elle, une statue d'or, un tout petit rien de lama en argent, une autre statue de divinité en... Juste travaillée comme cela, à la cire fondue, posée sur ses genoux. Elle a des brocarts, des habits somptueux, un petit rien sur la tête, une couronne, quelques petits détails, des bijoux, un peu d'or, un peu d'argent, quelques pierreries, et puis elle s'endort, doucement, congelée, pour l'éternité. Certainement les sanctuaires les plus hauts du monde. Je vous ai dit presque 7000 mètres d'altitude. Peu d'oxygène, un froid intense, cette glace de partout. Et puis, cette petite fille, je voudrais dire aujourd'hui ces petites filles, parce que grâce à ce dégel, on a fouillé certains de ces sommets. Et on a remarqué que non seulement c'était des apus, non seulement, on dirait des sommets sacrés, comme les Incas les considéraient, j'ai dit ces bornes du monde, c'est comme si on étendait l'empire et que petit à petit il fallait dire attention, on va montrer aux dieux que nous sommes là, on va monter ces pierres, on va monter ces offrandes, on va monter ces enfants, ces adolescents, et on va les laisser mourir doucement par le froid, drogués, des sacrifices humains, vous me direz, oui bien sûr, mais une forme de sacrifice assez doux, assez curieux, comme si cette petite fille, imaginez qu'on lui a juste glissé quelque chose à l'oreille il y a quelques secondes, et puis qu'elle s'endort doucement, elle va porter cette parole vers les dieux, elle va conserver pour toujours cet endroit, non seulement en lui donnant sa valeur sacrée, mais elle va permettre de créer ce contact que l'Indien connaît très bien, entre le bas et le haut, entre les choses de la vie matérielle, et puis ce côté spirituel, ces dieux qui sont perdus dans cet univers. Quand on a vécu une fois les Andes, on comprend l'importance de ces sommets. Tous ont quelque chose de magique, tous ont quelque chose de sacré. Alors ça, ben aujourd'hui, c'est une caisse de verre, je dirais une sorte de sarcophage étrange, une vitrine impossible. Elle a été quelque temps au Japon, parce qu'on est un peu japonais, au Pérou depuis quelque temps, Fujimori, ça vous dit quelque chose, on n'est pas président pour rien. Il y a plus d'un million de Japonais qui vivent de façon très intégrée dans le Pérou d'aujourd'hui. C'est certainement la plus grosse communauté étrangère qui puisse fonctionner de façon économique aussi intéressante au Pérou. Ce sont des gens qui sont arrivés comme des esclaves, qui ont remplacé certains noirs qui étaient déjà morts, qui ont remplacé certains indiens qui étaient déjà morts dans les mines, dans les chemins de fer, les chinois qui étaient venus au 19e siècle. Et ces japonais, eh bien, ils sont arrivés un peu vendus, en ignorant que par des migrations comme cela volontaires, ils n'allaient pas trouver le paradis, ils n'allaient pas trouver un jardin d'Éden au Pérou, non, mais une situation où petit à petit ils allaient être vendus, être pris comme serviteurs, être pris comme travailleurs, comme simples employés justement sur les grandes entreprises de la fin du 19e ou du début du 20e. Mais les Japonais sont japonais. Et lorsqu'on est japonais, on est un peu mafia, on est un peu spécial. On a une société très fermée, et puis les Chinois ont fait la même chose. On rachète le copain d'en face dès qu'on peut s'en sortir. Vous me suivez? C'est-à-dire que si vous avez juste ce qu'il faut comme argent, vous allez tout faire pour libérer l'esclave d'en face. Et petit à petit, vous allez créer un clan, une famille. Et puis, des fois, en une ou deux générations, vous allez tous vouloir que vos enfants rentrent à l'université, créer des écoles japonaises, des commerces japonais. Les chifas, par exemple, eh bien, ce sont les restaurants chinois du Pérou. On en a partout. On a l'impression qu'ils ont occupé petit à petit le terrain. Tiens, voilà une époque tout à fait nouvelle où vous voyez dans la rue, tout à coup, je ne sais pas, 100, 200 petits japonais, mais vraiment japonais, les yeux bridés, n'ont rien de péruvien. Ils ont leur école, leur uniforme, leur fonctionnement. Et ces familles se sont tenues les coudes de façon extraordinaire. Et puis tout à coup, vous avez un universitaire appuyé par un autre qui rentre, qui politiquement est appuyé par encore un autre, économiquement par le suivant, qui un jour devient président du Pérou. Comment est-ce qu'un Péruvien peut accepter un Japonais? C'est curieux, non? Ben, je vous dirais tout simplement que quand on est indien, quand on est quechua, qu'on représente encore 50 ou 60% de la population, qu'on a ce fonctionnement asiatique depuis des millénaires, sans le savoir, par le détroit de Bering, par le fait qu'on se sente à quelque part d'origine amérindienne, donc à quelque part d'origine asiatique. Et que vous voyez un Japonais qui fait son discours politiquement parlant. Vous le regardez, il vous ressemble un peu. Il a un peu la même peau que vous, la même façon curieuse de penser, il a l'œil bridé. Et puis en face, vous mettez, oh, je ne vais pas le taquiner, c'est un grand écrivain et je l'adore, c'est Vargas Llosa, blanc, superbe, d'Arequipa par exemple, contre ce Japonais de bas quartier qui a réussi de façon époustouflante par ses études, par ses liaisons que j'évoquais, économiques ou politiques, vous choisissez un Japonais. C'est un peu le miracle qu'on a vécu il y a quelques années au Pérou. Bon, il y a eu les otages, il y a eu des problèmes, mais on n'avait jamais entrepris autant de choses qu'au cours de ces dernières années au Pérou. Là, je rentre dans l'actualité parce que c'est fascinant de voir qu'un pays qui est assez lourd à déplacer, difficile à déplacer en soi, c'est-à-dire le transport au Pérou est une problématique incroyable. Je parlais d'univers minéral, quand on parlait de la côte et qu'on voulait penser à Arequipa ou qu'on voulait penser Cusco, c'est un jour, c'est deux jours de voyage. C'est-à-dire qu'on ne reliait pas les différentes parties du pays de façon aussi simple qu'on l'imagine. D'accord, il y a des avions, hein, quand ils arrivent à voler juste en dessous des sommets, en dessous des momies, en altitude. On sent que les ailes grattent le sommet et que, ouh, on va juste passer, même si on est Boeing, même si on est à réaction. Mais la route, c'était vraiment le Pérou, dans la mesure où on se disait, on est encore au 15e, on est encore au 16e. Là, je pense aux pistes Inca, ou au début des premières, des premières pistes faites pour des chevaux et non plus des lamas. Et les chemins ressemblaient encore à des choses qui font penser à de simples pistes chaotiques, avec des baches, vous savez, ces trous qu'on a un peu partout, enfin, ce qu'on appelle les nid de poule, et partir de Puno jusqu'à Cusco ou venir de Lima pour monter à Ayacucho, c'était véritablement la croix et la bannière. Il a suffi d'un Fujimori avec l'idée de lancer son pays dans une économie nouvelle, et tout à coup, la panaméricaine est neuve. Elle glisse comme sur du velours. Tout à coup, vous pouvez atteindre Arequipa, en 12 ou 13 ou 14 heures depuis la capitale. Tout à coup, vous partez de Puno et vous arrivez à Cusco en 5 heures de route. Vous venez de dépasser le train. Et c'est vrai que tout à coup, ce pays se révèle être un autre pays. Imaginez-vous où vous êtes et comment l'on a vécu. Enfin, j'ai essayé d'évoquer Arequipa et le côté colonial. Comment l'on a pu vivre depuis le XVIe siècle au Pérou? Aucun Péruvien, aucun indigène ne pensait à autre chose qu'à sa capitale mythique, Séville, Madrid par la suite. Mais enfin, on pensait l'Espagne. Lorsqu'on est en face d'un Pacifique infini, on pensait uniquement à partir de Lima, à remonter jusqu'au Panama, à traverser le Panama et sa jungle à pied, de revenir sur un nouveau bateau, une nouvelle caravelle, et de joindre ensuite, je ne sais pas, Cuba ou Saint-Domingue, et depuis là, l'Espagne. Jusqu'à il y a 10 ans peut-être, le Pérou a cru qu'il était encore pris par ce régime colonial et mental qui faisait qu'un pays face à la plus grande mer du monde pensait qu'il était encore atlantique et qu'il était encore espagnol. On avait l'impression que le Pérou était encore complètement relié à l'Europe. Et puis tout à coup, vous avez un Japonais qui vous dit en face, c'est le Japon. En face, c'est vraiment le Pacifique. Il y a un autre monde qui se dessine pour le 3e millénaire. Et tout à coup, le Pérou s'est dit, mais en face de nous, On a une mer incroyable, avec de l'eau froide, puisqu'elle est refroidie par le courant de Humboldt qui arrive carrément du sud et qui vous donne... Bah oui, regardez ce Pacifique. Vous avez lu « Les oiseaux vont mourir au Pérou » C'est vrai que cette eau froide permet du plancton. Vous savez ce petit plancton qui flotte comme ça doucement dans les couches de ces premiers mètres d'une mer qui est assez houleuse, qui est assez forte, ces grandes vagues qui déferlent comme cela sur ces côtes complètement désertiques. Et puis le plancton, bah, juste derrière, vous avez quelques petits anchois, ces anchois qui viennent se nourrir et ces petits anchois qui pourraient même nourrir de plus gros poissons. Ce sont les mers les plus poissonneuses du monde. Tout à coup, le Pacifique s'ouvre. Le Pacifique, c'est devenu l'univers actuel d'un Péruvien, d'un simple Péruvien, d'un simple Indien, d'un simple, ben oui, même Arequipa en plein continent, vous vous dites qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau sur cette planète. Pensez Pacifique, c'est aujourd'hui pour le Pérou penser qu'il y a l'Asie juste en face de chez eux, qu'il y a les nations qui demain seront certainement les plus riches, qui aujourd'hui sont déjà les plus riches. Le Japon n'a plus grand-chose à envier aux grands frères américains qui se trouvent là-bas, si loin, au nord. Le Japon est devenu presque le voisin du Pérou. Ils sont 1 million, ils sont bien installés. Pourquoi ai-je parlé des Japonais ? Parce que quand on est américain, on sait qu'on a quelque chose d'asiatique. On l'a compris dans le système, dans le fonctionnement actuel, mais depuis l'Antiquité, un Inca, quelqu'un qui vivait déjà sur ces terres d'Arequipa le savait. Pourquoi pas ? On pourrait se diriger maintenant par cette piste à travers les volcans. Tiens, regardez cette plante étrange. On dirait, comment pourrais-je la comparer ? La première fois où je l'ai vue, la Yarita, c'est un peu comme... Comment vous la décrire ? Vous auriez une sorte de meule, une sorte de grosse boule, une chose à la Tintin. Vous savez, il y a, c'était dans l'étoile, ou je ne sais plus quel est le titre de Tintin, où vous aviez une espèce de gros champignon qui poussait comme ça, un peu blanc, avec des taches curieuses. Ben non, là c'est vert. Un vert, comme ces mousses épouvantables, comme ces boules un peu collantes que nos enfants utilisent et se lancent à la figure ou s'amusent. Non, c'est une énorme mousse. Elle doit bien faire 1 mètre. 1,50 m de hauteur. Et puis, je ne sais pas, le côté doit faire 1,50 m, 2 mètres parfois. Vous vous approchez, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Et quand vous la touchez, tiens, c'est dur comme du bois. C'est curieux. Ah, la plante elle-même doit faire 0,5 mm à 1 mm de hauteur. Vous êtes à 4800 mètres d'altitude. Là, vous venez de passer le dernier col avant de découvrir le canyon des Colca. On vient de voir déjà passer un vautour. Mais là, cette plante est curieuse. Elle est dure comme du bois, vous pouvez la brûler pour en faire du feu. Ses racines descendent à 30 mètres à l'intérieur de la roche et du sol. C'est une énorme éponge verte, un vert. Mais un vert, je ne peux pas vous le décrire. Non, c'est un vert entre amande et vert pétant, comme ça, quelque chose d'assez acide. C'est une plante qui ne fleurit pratiquement pas. Sa fleur fait 0,5 mm de hauteur. C'est beaucoup trop haut pour une plante qui elle-même fait 1 mm, mais elle a mis effectivement des centaines d'années à pousser. Je crois que c'est un peu la légende. Elle pousse de 1 à 2 mm par année. Elle grandit gentiment. Elle couvre petit à petit toutes les surfaces. Il n'y a rien. De la roche. Tiens, un peu de glace fondue, un peu d'eau, les premières gouttes qui descendent doucement depuis ces sommets enneigés qui sont autour de vous. Il y a un rien de volcan, un rien de fumerole. Vous êtes sur le dernier des hauts plateaux. Plus loin, ce sera Colca. Des millions de terrasses, des millions de kilomètres carrés d'agriculture et un canyon qui descend d'un seul coup à 3800 mètres de profondeur vers le Pacifique, là-bas, à l'horizon. Derrière vous, Arequipa. La petite goutte d'eau coule, elle va irriguer la plus belle vallée. 300 jours de soleil, il brille, le ciel est bleu, le Misti est toujours aussi blanc.